La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Voici donc pour cette deuxième partie de la Midinale qui normalement est s'informer autrement, mais en fait on va pas faire du s'informer autrement.
Un petit peu.
On va continuer sur la GD Lutte et sur les petites sorties qu'on a notées dans le télégramme d'un prof qui est plutôt connu et familier de ce genre de sortie, parce que grâce à notre Nico, il nous a retrouvé un article, parce que donc ce prof-là, il s'appelle Boutillon, Fabrice Boutillon. Alors je vous encourage à tous aller voir son Wikipédia pour regarder son cursus scolaire et par quelles magnifiques écoles il est passé, dont des écoles catho. Son maître de thèse, c'est un catho, donc c'est un mec qui mérite d'être écouté. Bon, après, la parole à tous, hein, comme on dit normalement, dans une société démocratique, tout le monde a droit à la parole, même si des fois certaines paroles nous dérangent. Et donc, ce gars-là, en 2016, déjà, il avait fait un article dans le Télégramme.
Donc, un professeur d'histoire sur les totalitarismes, voilà. Je précise. Bon, catho.
alors déjà... voilà, bon. Non, mais en fait, c'est son cursus scolaire moi, qui m'a choqué, parce qu'en fait, il est quand même passé par des écoles... plutôt orienté vers des écoles catho, quoi. Enfin, bref. Et son maître de thèse, c'était quelqu'un aussi plutôt connu dans le milieu catho, quoi, tu vois, intégriste. Bon, bref, hein, on va pas démonter les gens comme ça, c'est pas le style de la maison.
Non.
Mais déjà en 2016, alors c'est marrant parce que j'ai le Télégramme, en plus c'est des gens qui se foulent dans leur travail, hein. Je note le travail journalistique, ils ont pris la même photo sur l'article de 2016.
Sept ans d'intervalle.
Voilà, en 7 ans d'intervalle, on ressort la même photo du mec.
Au-delà de ça aussi, il faut se poser la question de comment ça se fait que ce gars-là, en fait, il a... vous avez peut-être pas noté, mais en fait, c'est pas un journaliste du Télégramme qui allait le voir, quoi. C'est une tribune de sa part, quoi.
Ouais.
Donc, c'est savoir aussi pourquoi est-ce qu'on lui donne la parole dans une tribune. En fait, c'est quoi sa légitimité, en fait?
Bon, il doit être connu pour certaines de ses positions ou positionnements, voilà. Et donc...
À chaque fois qu'on parle d'ultra-gauche, en fait, on fait appel à lui, quoi.
C'est ça, ouais. Parce que déjà, donc, en 2016, excusez-moi, le titre de l'article, c'était quand même magique, c'était « Brest, un professeur accable les gauchistes ». Donc ça, c'était 2016. Donc là, le gars, il dit, professeur d'histoire du totalitarisme, a pris sa plume pour dénoncer le blocus de la fac de lettres, une fois de plus prise en otage par le gauchisme. Donc déjà, le mec, il a une tribune, il prend sa plume, le Télégramme lui donne droit au chapitre, puisque c'est-à-dire que c'est publié dans le Télégramme, hein, un canard qui est quand même diffusé sur Internet, qui est en presse que t'achètes, que tu es abonné, t'es machin, t'es tout ça, bon bref. Et ce gars-là... on lui donne la plume donc pour ça. Donc en 2016, il dénonçait les gauchistes qui prenaient pour lui en otage. Donc si je vais lire un peu le résumé, je vais pas résumer l'article, mais en gros, il dénonce, je sais plus comment il appelle ça, la prise en otage un peu par les gens qui mènent des luttes. Bref, voilà. Donc ça, c'était un petit article en 2016.
Mais c'était un blocus déjà de la flaque de lettres et voilà, il dénonçait ce blocus en disant une fois de plus prise en otage par le gauchisme.
Voilà. Et là donc, rebelote, le 14 février 2023, tribune. Donc là, ça veut dire que le mec, en fait, on lui... La tribune, c'est pas un article, hein. c'est lui qui donne son... C'est un peu comme les éditorialistes de BFM et CNews, quoi. C'est les mecs, en fait, ils viennent sur le plateau et puis ils sortent leur merde. Et donc là, il sort une tribune, donc même photo, je note... Beau travail de journaliste, le Télégramme, hein. Franchement, vous auriez pu au moins changer de photo.
Une photo de...
Stéphane Leroy,
donc,
en 2016.
Voilà.
Donc reprise en 2023.
Voilà. Et là, donc, dans sa tribune, c'est « La faculté est un espace de liberté intellectuelle ». Putain, mec, franchement, c'est magique.
Et... Donc il dénonce une nouvelle fois le blocage de la faculté. Hein. Il
c'est
a
ça.
Des problèmes, il n'aime pas trop ça. Apparemment.
Ouais, bah, en fait, c'est l'argument classique du... voilà, les grévistes, oh là là, ils nous privent de notre liberté, oh là là... C'est un déni de démocratie, tout ça. Et c'est des fachos.
Okay, ouais, c'est un mépris. Pour lui, c'est ça, ça commence comme ça. Hein. C'est un mépris pour l'université d'effectuer un blocus de la faculté. Quoi.
Ouais, il y a quand même une phrase qui me tue, moi, c'est qu'ils sont les derniers à pouvoir se plaindre de l'intervention des forces de police dans notre faculté. Ce sont eux qui les ont appelés.
Tu vois, non, c'est... on rappelle, comme on l'a dit dans la première partie de cette midinale, c'est Pascal Olivard qui a appelé les flics. Hein.
Non, mais lui, en fait, ce qui est fou, c'est que dans cette tribune, finalement, il légitimise une intervention policière dans une fac en disant « mais c'est parce qu'en face, il y a de la violence qu'il faut qu'on réponde à de la violence ». Mmh. C'est un truc de fou. Quoi.
Et oui, qu'est-ce qu'on appelle de la violence aussi, voilà, parce que là, je veux dire...
Bloquer une fac, il n'y a rien de violent.
Et puis l'AG des luttes, bon, moi, j'y ai pas participé à toutes, j'étais à quelques-unes. À la base, c'est quand même plutôt un endroit où les gens discutent entre eux, se politisent ou évoquent des idées politiques ou se fédèrent autour d'idées politiques. Il y a des ateliers, il y a des prises de parole, c'est démocratique. Je vois pas trop où est la violence dans le fait que tu es 200 personnes qui se retrouvent dans un amphi à causer de quelles actions on mène contre un pouvoir qui est en place et que actuellement la violence, elle est dans les mains du gouvernement. Hein. De toute façon, il suffit de voir le débat à l'Assemblée nationale parce qu'on peut parler de violence partout, hein, mais quand tu vois actuellement les décisions que fait notre gouvernement pour faire passer cette loi, c'est-à-dire passer par le 47.2 ou 47.1. 47.1, voilà, qui est une... Donc, on réduit le temps alloué aux parlementaires pour pouvoir débattre d'une loi.
Et puis on finira par un 49.3, de toute façon, comme d'habitude. Quoi.
C'est... Ouais, bah, ils sont pas choix de dégainer, mais bon, après, il y a des chances qu'ils le dégainent. Hein, donc là, la fin des débats parlementaires, c'était vendredi soir, si mes souvenirs sont bons, où on a eu une magnifique intervention de Dussop qui se plaignait de s'être fait insulter. Donc on rappelle tous que Dussop, il y a 10 ans, il était du côté du PS et il posait des questions à Éric Woerth qui lui-même présentait une réforme des retraites. Et c'était les mêmes questions qu'on lui a posées là pendant la réforme des retraites. Donc Dussop, c'est plus son pantalon lui qui l'a retourné. Je pense que c'est même sa peau entière, son cerveau. Je ne sais pas comment il bosse ce gars-là.
Ouais, truc de macroniste, pareil. Hein. Macron, c'est la même. Hein. Je crois qu'il y a 4 ans, il disait la même chose. Oh là là, ce serait hypocrite de demander aux gens de bosser 2 années de plus. Ah bah tiens, où est-ce que t'en es aujourd'hui ?
Voilà. Et donc on est quand même sur des... Enfin, c'est cet article moi, que je vois là dans le Télégramme. Parce que bon, le Télégramme, ils sont quand même assez coutumiers hein, de ce genre de tribune et de... C'est pas non plus le média pro-gauche, hein, on va dire ça, en Bretagne.
Non, il n'y en a pas. Voilà. Enfin, pas dans ceux qui sont accessibles à la plus grande partie des personnes.
Mais moi, ce que je trouve impressionnant, tu vois, c'est qu'il y a comme une tribune dans le Télégramme, mais t'as pas une tribune où t'as pas une... Ils donnent pas la parole, par exemple, à l'AG des luttes, tu vois. C'est... Ouais. Y a pas un moment...
Un droit de réponse, quoi.
Où le Télégramme, il se dit, tiens, on va peut-être aller... Il y a quand même un mouvement qui se passe dans les facs, il y a un mouvement social en France qui est quand même assez important, enfin, je veux dire, ils peuvent pas le nier, hein... Malgré le fait que dans tous les médias, on lise « oui, il y a eu moins de gens, il y a eu moins de ceci, oh là là, les chiffres de la CGT, c'est 3 millions, mais en vrai, c'est 900 000 ». Bref, on peut toujours débattre des chiffres. Hein.
On ne le fera pas, encore une fois.
Mais voilà. Et ce qui est impressionnant, tu vois, c'est que donc il y a cette action d'AG des luttes, il y a une action comme des flics qui les délogent. Et on voit une tribune d'un mec qui dit que ouais, c'est pas normal que des étudiants se fédèrent et expriment leurs opinions, en fait. Quoi.
Et bloque une fac qui, est, voilà, pour lui, c'est une atteinte à la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et patati, et patata. C'est... Il va même plus loin, hein, il dit carrément que c'est purement et simplement une violence. Et alors là, c'est là que ça nous fait péter des câbles, une violence fasciste. Car on aurait tort d'oublier, comme ne le fait que trop vite la gauche radicale, que c'est la grève avec blocus qui, parce qu'elle est une violence, a été, en Italie, le premier terreau du fascisme, et que c'est dans ce monde d'action que s'est formé le jeune Mussolini. Oh, il y va, hein,
on peut rajouter aussi que dans l'article de 2016, il avait déjà parlé de Mussolini.
Oui. Mais en fait, c'est son pote.
C'est un peu une obsession, donc je comprends qu'il soit sur le côté qu'il soit spécialiste des autoritarismes. Mais il parlait aussi de l'Allemagne nazie en 2016. En fait, ce gars-là, c'est un peu comme... tu parlais des éditorialistes ou des gens qui sont adeptes des bons mots. En fait, il leur sort à chaque fois, quoi. Mm. C'est-à-dire que voilà, l'Allemagne nazie, Mussolini, voilà. Et le souci, c'est que dans l'article de 2016, il parle aussi... À partir du moment où on a recours... Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Hein, à partir du moment où on a recours au meeting à l'Assemblée Générale... Mm. en fait, on serait catégorisé fasciste, quoi. Fasciste mussolinien. Et dans l'article de 2016, il dit même « et à la force physique contre les opposants ». Donc ça veut dire qu'en 2016, il considérait qu'il y avait eu de la force physique...
Par le blocus, quoi.
Par le blocus, quoi. Ce qui est extrêmement, extrêmement grave, quoi. Il y a un terme aussi qu'il emploie dans ces deux articles. Alors, pour reprendre Pedro, il y a aussi un article de 2006, de Boutillon, qui avait fait causer lui aussi, et c'était par rapport au CPE. Mmh. Et il parlait de machines de guerre. Donc, de machines de guerre contre les gouvernements. En fait, voilà. En gros, bloquer une fac, c'est une machine de guerre. Enfin, tu vois très bien le mec à quel point il est vraiment pointilleux sur les définitions, quoi. Mmh. C'est juste affolant.
Ah bon, en 2006, on a dû se croiser, alors.
Ouais.
Parce que j'étais dans les blocages.
Bah ouais, ouais. Et il avait été victime de lynchage. Enfin, voilà, c'est ce qu'il dit un peu dans son article, quoi. En gros, il avait, malgré le blocage, il avait demandé à des étudiants de participer à un exercice écrit, enfin, ce qu'on peut se représenter. En gros, il tenait quand même à organiser son truc et il s'était étonné de se faire envoyer chier par rapport à ça, quoi. Mais c'est...
Oui, puisque surtout que je me rappelle que quand même les manifestations contre le CPE en 2006, c'était quand même beaucoup les étudiants qui étaient dans la rue à l'époque.
Oui, puis toute sa rhétorique, en fait, elle est basée sur le fait que c'est ça. Il compare parce que Mussolini ou les nazis auraient, voilà, fait des assemblées générales, des choses comme ça. Et donc, du coup, il dit, puisque vous utilisez ces outils-là, ouais, vous êtes des fachos, ouais, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans sa nouvelle ouais, tribune, hein. Comment il a écrit ça ? Parmi les revendications du fascisme naissant, le croira-t-on ? Donc là, il reparle de l'époque mussolinienne. L'indispensable modification du projet de loi d'assurance invalidité et vieillesse qui abaisse la limite d'âge actuellement proposée de 65 à 55 ans. Ouais. Donc apparemment, Mussolini avait prévu de baisser l'âge de départ à la retraite. Il met ça en comparaison au fait que c'est ce qu'on est en train de demander. Et là, il dit aux bloqueurs, et à ceux qui les soutiennent, de voir s'ils sont fiers de pouvoir crier Mussolini avec nous. Mais il est complètement taré, ce garçon.
J'aimerais bien lui sortir un argument. C'est, est-ce qu'il utilise des autoroutes?
Parce que vous savez que les autoroutes, ça a été inventé par les nazis.
Voilà. Donc je veux voir ce monsieur se balader sur toutes les petites routes en se baladant en France.
Ouais, mais on est dans la rhétorique classique, finalement. Je pense que lui, ça doit être une Madeleine de Proust du Télégramme et qu'à chaque fois qu'il y a une contestation, il la ressort. Enfin, il faudra lui rappeler aussi que l'AG, justement, ça fait partie du moyen d'organisation le plus classique et dans toutes les manifestations, qu'elles soient étudiantes ou salariées, hein, parce que dès que les salariés font une grève aussi, en général, quand ils font une grève reconductible, ils font une AG tous les jours, justement, pour savoir est-ce que les salariés votent ou non la poursuite de la grève, la reconduction, puisque justement...
Une méthode tout à fait fasciste.
Voilà, dans la grève, il y a ce côté, justement, qui est important de demander l'avis de tout le monde, parce qu'il y a des moments où, oui, peut-être des gens ils vont vouloir lâcher parce qu'ils ne peuvent plus suivre ou ce genre de choses, ou ils ont peur, parce qu'il y a des moyens de pression. Hein. Enfin, dans le privé, on le voit un peu plus que... Dans une fac, ça doit exister aussi, mais dans le privé, tu peux avoir des gros moyens de pression, des directions, des machins, des cassages de grève. On l'a vu il n'y a pas longtemps, là, c'était à la Poste à Bordeaux, où pour casser le mouvement de grève, ils leur ont promis de leur supprimer des primes, ils ont embauché des intérimaires, enfin, c'est un truc bien dégueulasse de la direction. Là, il y avait un autre article qui est tombé, mais justement, tiens, j'élargis un peu sur les grèves, qui était dans Révolution Permanente. Ils ont eu on leur a transféré une directive de chez Airbus qui a été envoyée à tous les managers sur comment casser la grève parce que chez Airbus, ils ont peur, en fait.
De ces 30 pélos là qui étaient sortis.
C'est pas cela. Nous, ils ont eu peur aussi, mais on en reviendra peut-être un jour. Moi, c'est les renseignements territoriaux qui m'ont contacté. Donc chez Airbus, ouais, il y a eu un mail qui a été envoyé à tous les managers. Donc on retrouve l'article dans Révolution Permanente. Parce qu'en fait, il y a eu un mouvement de grève là en novembre chez Airbus où ils ont réclamé des augmentations de salaire.
Les salauds,
quoi. Et là, en ce moment, il y a une contestation sociale qui grandit de plus en plus. Les gens, ils voient bien que leur salaire augmente pas en même temps que l'inflation, qu'il y a des gens qui se gavent. Enfin, t'as quand même Airbus, c'est pas une société qui se porte mal, hein. Donc voilà, et derrière ça, ben, ils envoient quand même des mails. Alors, faut que j'ai pas l'article de tête là, mais donc il y a une directive par mail qui est envoyée à tous les managers de la boîte qui leur dit comment gérer une grève, comment isoler donc, les gens qui sont meneurs dans la grève. Mmh. Alors ça, on va rappeler la loi quand même à Airbus, hein. C'est interdit par la loi de faire ça. Mmh. C'est de l'obstruction au syndicat en fait. Mmh. Mais voilà, on en est là. Et en fait, ils ont peur, toutes les remontées de façon sont très mauvaises hein, pour le gouvernement, que ce soit là sur le mouvement du 7 mars, où on commence à voir quand même que les gens, ils se disent... Enfin, les raffineurs, ils avaient prévenu chez Total, par exemple, mmh. quand ils ont arrêté leur mouvement social en novembre, ils ont dit, nous, on arrête là, parce que, bon, déjà, on s'est fait poignarder par la CFDT dans le dos, et on arrête parce qu'on se préserve pour les retraites. Mmh. C'est-à-dire qu'eux, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un mouvement très dur pour les retraites. Donc mmh. je pense que tous les Français l'attendent aussi, hein, parce que finalement, quand tu fais les sondages en manif et tout ça, les gens ils disent, bah, quand est-ce qu'on bloque ? Et finalement, il n'y a que ça qui va... Alors on va tous essayer de bloquer en fonction des pouvoirs qu'on a chacun, mais...
En tout cas, les raffineurs donnent le ton en disant qu'ils commencent une journée plus tôt que le 7 mars.
Quoi. Oui. Et, ouais. et après, bon, t'as la SNCF qui va rentrer dans le bal, t'as sûrement les... Alors là, eux qui peuvent faire très mal, là, c'est les contrôleurs aériens, là, quand ils ont fait leur grève surprise à Orly, ça fait très très mal.
Puis tout le secteur de l'énergie, hein, il suffit que, vis-à-vis des centrales nucléaires, ils se mettent tous en grève, ça va calmer. Hein.
Ouais, ouais, ou qu'ils fassent ce qu'ils font déjà, là, d'ouvrir les compteurs, par mmh. exemple, faire... Ça, c'est des actions qui...
Alors ça, c'est pas du blocage, c'est juste faire perdre de l'argent à EDF, mais c'est pas... ça bloque pas le pays totalement, quoi.
Non, mais c'est une... Ils appellent ça comment c'est... Je trouvais ça bien, les actions Robin des Bois.
Oui.
C'est pour une fois, pour au lieu de dire, oh, attends, on est encore bloqué, là, machin, machin, là, les grévistes, ils sont dit, ben, vous voyez, là, on libère aussi... Mmh. Bon, bref, il y a des actions qui peuvent rentrer en compte, hein, et de toute façon, on voit que la grogne sociale monte, donc... Enfin, on s'est quand même tapé là, 2 mois de service après-vente du gouvernement sur les retraites, parce que c'est à peu près ça, hein, là, depuis le 1er janvier. Il y a du service après-vente où les mecs ils te disent que c'est une réforme juste, sociale, machin, tout ça, et il y a quand même 70% des Français...
Qu'en veulent pas.
Qu'en veulent toujours pas. Mmh. Donc tu peux prendre tous les chiffres dans n'importe quel sens, les Français n'en veulent pas. Mmh. Donc je sais pas en fait ce que Macron attend... hier je suis tombé tu vois, sur une petite vidéo sur Blast, là, parce qu'ils ont recréé les guignols. Mmh. Et la dernière qui est sortie, c'est Macron qui est enfermé à l'Elysée et avec un flic qui est en train de lui causer oh, « Sors de là !»
Ça s'appelle les marioles.
Déjà, ouais, les marioles, ça, ouais. Mmh. Et qui te le montre comme un forcené qui s'entête, en fait, dans son... Enfin, c'est impressionnant de... Enfin, il faut quand même voir le déni de démocratie, même à l'Assemblée, quand tu regardes les débats, mais c'est d'une tristesse entre Dussopt qui fait des mots croisés, les autres qui pianotent en permanence sur leur smartphone. Ah, c'est un truc de fou, hein, c'est... Mmh.
En quand tu cas, vois 70% c'est des Français qui sont contre, enfin, je veux dire, le taux de participation, il est assez énorme, quoi.
Bah, oui,
donc, enfin, je veux dire...
Ouais, ouais, puis ce qui est quand même impressionnant, je trouve, dans cette réforme, c'est que les retraités sont... Enfin, les retraités qui, eux, pourraient se dire, bah, nous, ça va, on est préservés, on a notre retraite, ils sont dans la rue. Mmh. Les jeunes sont dans la rue, les travailleurs sont dans la rue, tout le monde a le même mot d'ordre. Alors, tu te dis, mais il y a un problème, quoi, ils n'entendent pas, quoi. Et, les gens, et ce qui est impressionnant, je trouve, quand même, c'est qu'il y a une mémoire collective, finalement, qui s'est créée, c'est que les gens, ils n'oublient pas, quoi.
Mais après, tu vois, pour revenir à Fabrice Boutillon, là, quand, le danger de ce genre de tribune, quoi. Alors, déjà, nous, ça nous choque de voir qu'il peut faire une tribune dans le Télégramme. Mais il ne faut quand même pas oublier, du coup, quand même que ce gars est prof d'histoire à la fac, au moins des troisièmes années en fac d'histoire, et c'est ce discours-là qui va leur servir, qui est sur une table, quoi. Et là, il y a aussi un danger, quoi, de laisser des profs tenir des propos pareils, parce que c'est du révisionnisme, non ? C'est du... Enfin, je ne sais pas, c'est...
C'est surtout que tu es censé avoir la neutralité aussi, quand même, quand tu es prof.
Normalement, oui.
Au sein de ton cours, après, les opinions que tu défends...
Mais comparer des gens de la gauche qui luttent d'une certaine façon à des fachos, quoi, ou des Mussolini. Enfin, ce gars est dangereux, quoi. Et d'ailleurs, tiens, ça, pour rebondir un peu sur la discussion qu'on a eue sur le CA avec Patrick Olivard, Olivard, quoi. On y a quand même demandé à un moment, enfin, les gens qui étaient là lui ont demandé, mais. Mais désolidarisez-vous des propos de ce prof, quoi. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Ah non, non, bah non, je le fais pas parce que je suis pour la liberté d'expression.
Mais tu peux être pour la liberté d'expression et te désolidariser de propos, hein, ouais, c'est pas interdit.
Mais on peut aussi rappeler ce que c'est que la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle a aussi une limite, quoi. Elle s'arrête là où elle empêche la liberté d'expression des autres. Et avec des discours comme ça, tu... Enfin, je sais pas, en gros, ça veut dire fermez votre gueule, les gauchias, vous êtes tous des fachos, quoi.
Indépendamment de ça, tu vois, comme tu le dis, c'est aussi moi ce que je trouve impressionnant, c'est que finalement, on voit qu'il a ses entrées dans le Telegram, quoi. C'est quand même... tu vois, on parle de gens qui viennent dans un média, qui... Ils sortent leur truc, et en face, tu vois, t'as pas le travail du journaliste qui est normalement d'opposer aussi les idées. Un journaliste, c'est censé quand même déjà recouper ses sources, les... Bon, bref, c'est ce qu'ils le font plus depuis des années, mais bon. Et c'est censé aussi, normalement... Enfin, tu sors une tribune comme ça, où le mec, il te met... en porte-à-faux, donc une AG étudiante, enfin une AG en fait qui n'est même pas étudiante, puisque l'AG des luttes, il n'y a pas que des étudiants, on va le rappeler ça, comme ça, hein, c'est ouvert à tout le monde. Et en face, il n'y a pas de droit de réponse. Il n'y a pas un moment où le Telegram il se dit putain, je vais peut-être quand même aller interroger les mecs en face et se demander ce qu'ils en pensent et c'est quoi leur mouvement et qu'ils en parlent un peu. Quoi, parce que finalement, dans tous les médias actuellement, bah là tu vois, nous à Radio Piquet, on avait dit que de toute façon, il fallait qu'on invite l'AG des luttes, mais parce qu'on y va aussi.
Bah oui, parce que nous, on s'intéresse.
Et on s'y intéresse, tu vois. Mais à côté de ça, tu vois, je vois pas de retour des autres médias qui se sont dit, tiens, il y a peut-être un moment, on va aller interroger. C'est un peu bizarre, quoi. C'est... Et par contre, ouais, voilà, on laisse libre cours à un mec comme ça, quoi.
Mais bon, bah, tu vois, le constat qu'on peut faire, donc, c'est que lui, il a une tribune, il est prof à la fac. Et puis, bah maintenant, la faculté UBO donc, à Brest a regagné ce président qui dit clairement qui refera appel aux forces de l'ordre en cas de nouvel blocage, qu'il appelle ça de la fac, qui n'est pas capable de se désolidariser de propos de ce prof d'histoire, de propos dégueulasses. Bon, bah, je crois qu'on sait à qui on a affaire, quoi.
Ouais, bah après... Le problème, c'est que maintenant, moi, comme je suis plus étudiant, je sais pas comment, tu vois. Toi, peut-être, Camille, tu pourras me le dire. Chez les étudiants, la température, comment elle est ou,
Parmi ceux que je connais, bon, après, je connais pas tout le monde, mais globalement, tout le monde, enfin, parmi ceux que je connais, sont d'accord pour dire que cette réforme est nulle. Après, il y a peut-être des désaccords sur la méthode, tout ça. Mais globalement, tout le monde est. Enfin, voilà, dans ma filière, tout le monde est de cet avis-là. Il y en a quelques-uns, deux, trois personnes où je suis peut-être pas trop sûr, peut-être un petit peu plus de l'autre côté, mais voilà.
Et le ressenti par rapport à ce nouveau président, alors, il le voit comment, là, son arrivée?
Bon, ça, j'en ai pas trop discuté autour de moi, surtout avec les gens de l'AG des luttes, mais bon, là, bon,
voilà. En tout cas, j'ai l'impression que déjà, il avait pas gagné leur confiance, quoi. Ouais. C'est d'où les cris qui a été demandé à la sortie du CA, c'est-à-dire que, mais je vous ai donné ma parole, il disait ça, hein, parce que là, je vous ai donné ma parole, il y a des témoins, patati, patata.
Ouais,
les
témoins.
Ouais, enfin bon, ça reste ta parole, voilà, d'un truc qui est censé ne pas être public, bon, bah voilà, non, il était hors de question que l'AG ressorte sans... Un écrit que même là, je me demande quelle valeur peut avoir cet écrit. Bon, en tout cas, il a été prévenu que s'il est trahissé, il faudrait revenir au prochain CA, quoi.
Ouais.
En gros, quoi. Oui, alors qu'il prévoit des chaises en plus, quoi.
Il y a deux autres revendications aussi qui n'ont pas été acceptées. C'était banalisation des cours, genre de manif.
C'est vrai, on n'a pas parlé
de ça. Ça a été discuté, mais enfin, bon, pas accepté. Et l'autre revendication, c'était... juste ne pas retransmettre les absences
au CROUS,
tout ça, pour éviter que voilà, les problèmes avec les bourses, tout ça, ces choses-là.
Oui, parce que c'est vrai que le CROUS a tendance à mettre la pression sur les étudiantes en cas d'absence de cours, de les menacer de perdre leur bourse, tout simplement. Quoi. C'est la grande classe.
Ouais, il y a un autre truc qui a été discuté aussi au CA, c'est les frais d'inscription pour les étudiants étrangers extra-européens. Et en fait, lui, il s'est abrité derrière le chiffre parce qu'en fait, tu peux avoir une dérogation de 10% du nombre d'inscrits, enfin 10% des étudiants qui peuvent demander. En fait, tu peux demander la gratuité en fait d'accès à 10%. Pour 10% des étudiants, et globalement, sa réponse, c'est en fait, il se positionne pas non plus là-dessus. Il dit juste que pour l'instant, c'est la fac, enfin l'UBO, est pas concerné par ça parce qu'ils atteignent pas 10% d'étudiants étrangers.
C'est vrai qu'il a balancé en touche sans dire vraiment pourquoi.
Ouais,
quoi.
Ouais. Mais sans prendre position de si un jour, je sais pas, on arrive à 15% d'étudiants étrangers extra-européens, est-ce que c'est quelque chose sur lequel il serait capable d'agir justement?
Est-ce qu'il a la main? tout simplement, parce que ça, c'est une directive nationale quoi,
ouais.
Enfin, qui tombe en haut.
Oui, tout à fait, oui.
Donc, ouais, non, mais de toute façon, je pense
donc, qu'il y a... Donc, il y a ça, et puis il y a quelque chose d'autre aussi qui n'a pas été noté, et ça, c'est un peu regrettable sur le papier, c'est que moi, je l'ai entendu dire, en tout cas, qu'il s'engageait à prévenir l'AG des luttes, ou en tout cas les gens qui souhaitaient bloquer la fac, d'une intervention policière.
Oui, on en a parlé vite fait tout à l'heure, qu'il avait été proposé hein, de lui dire, comme le directeur de la fac Ségalin avait été invité, de pouvoir passer 5 minutes, 10 minutes au début de l'AG pour échanger avec les gens de l'AG, et qu'après, bien sûr, il ressortait et tout, et lui aurait dit... à un moment, oui, s'il y a blocage, je viendrai vous faire mes propositions en début d'AG. Bon, déjà, il s'était caché derrière ce truc, mais on vous a fait des propositions sur le dernier blocage, et c'est pour ça, comme vous n'y avez pas répondu, j'ai envoyé les flics. Mais les gens y ont répondu, mais si on n'est pas d'accord avec vos propositions, en fait, elle est quand, la discussion quoi.
Après, il faut qu'ils s'attendent que le 7 mars se soit bloqué. Hein. Il va falloir quand même le prévenir. Hein.
Ce ne sera pas la peine de le prévenir. Et si c'est décidé, il sera vite au courant, je pense.
Ouais. Non, mais enfin, tu as quand même une concertation de tous les syndicats en ce moment qui te disent que le 7 mars, ça va être gros dawa, quoi. Puisqu'il nous reste que ça.
Mais avoir grosse présence policière, je le sens aussi. Il va se préparer.
Ouais, tu peux pas mettre un flic derrière chaque habitant. Hein.
Non, justement, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du monde dans la rue. Bon.
Ouais, il y a des choses de prévues normalement pour la suite. Ouais. Maintenant, les vacances, c'est confirmé.
En tout cas, la prochaine AG, ce sera. Donc là, il y a une semaine de vacances à la fac. Il me semble que la prochaine AG, hein, je le rappelle là, parce que c'est ouvert à toutes et tous, hein, c'est lundi 27 février.
C'est ça.
Probablement 18h, j'imagine. Un truc dans le genre. C'est souvent fin d'après-midi. Ça m'étonnerait que ce soit en pleine journée. 18h ou 18h30, mais bon, ça, vous suivez les infos. Hein, d'ici là, je pense que l'info va tourner. Quoi, et...
Il y a le compte AG des luttes, sur Facebook, Instagram, à suivre là-dessus.
Voilà, donc vous le retrouvez, le compte exact Instagram, je peux vous le donner tout de suite, c'est AGLutte-Brest. Et le compte Facebook, il me semble que c'est à peu près la même chose. Ouais, voilà. Donc vous retrouvez les vraies infos de l'AG des luttes, c'est sur cette page-là. Hein, c'est pas dans le Télégramme.
Quoique.
Ni sur la page de la FEDB.
Peut-être que le Télégramme nous a écoutés, ils vont faire leur travail de journaleux, quoi.
Bon, on va leur envoyer un lien. Quand on va poster cette midinale, on leur fera coucou. Ils ont une page Facebook Télégramme Brest aussi, quoi.
Eh oui, c'est vrai.
Ouais,
bon. Franchement, c'est bien ça, lundi 18h.
Lundi 18h, donc 27 février. On aura le temps d'en reparler lundi midi. On rappellera à la midinale de la semaine prochaine. Bon, est-ce que ce Fabrice Boutillon là, mérite qu'on en parle plus, à part de dire que c'est bien un personnage bien... bref.
Non.
On n'insultera pas à l'antenne. On a fait le tour de ce personnage.
Ouais, moi après aujourd'hui. J'avais un petit sujet, mais tu vois, qui n'avait rien à voir. Dans les luttes, tu vois, qui continuent, mais...
Ah ben, on n'a pas fini cette deuxième partie encore. Ouais. Hein. Je sais que vous aviez d'autres sujets de... qui.
Moi, je ne vais pas forcément parler de... Je te laisse la place,
Pedro.
Ouais. Cool. Parce que je me dis que le sujet là, que je voulais aborder...
Il est abordable la semaine prochaine.
Il est abordable la semaine prochaine. Peut-être... Ouais, on en parlera la semaine prochaine.
D'autant qu'on a une grande ouverture d'un super magasin qui arrive cette semaine à Brest, et je pense que ton sujet colle impeccablement avec ce truc-là.
Il fera le lien avec.
Ouais,
quoi.
Ouais.
On n'en fera pas la pub de ce magasin de merde. Quoi.
Non, moi, je voulais reparler d'un petit article encore dans Révolution Permanente, tu vois.
Le
média, quoi, tu vois. C'est, Donc, il y avait notre président vénéré là, qui avait sorti un nouveau truc qui s'appelait le partage de la valeur. Donc c'était un des futurs projets de loi là qu'ils voulaient faire passer. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une proposition de loi avec le MEDEF, on parlait du partage du pouvoir d'achat, du partage des richesses et tout ça. Et donc ils se sont dit tiens, avec le MEDEF, on va pondre un truc. Et donc ça s'appelait le partage de la valeur. Voilà. Et donc là, on est en plein mouvement social, hein, comme tout le monde le sait, qu'en ce moment, ça gueule, justement, pour le pouvoir d'achat et tout ça. Et là, donc, ils viennent de donc ça vient de sortir. Donc la CFDT et la CFTC voilà, ont annoncé qu'ils signeraient donc l'accord du partage de la valeur avec le MEDEF. Donc, l'accord.
Attends, on partage les valeurs avec le MEDEF
ou... Ouais, alors en fait, en gros, ce truc-là qu'ils appellent le partage de la valeur, en gros, c'était d'inciter les entreprises à faire plus de primes pour les salariés. Donc voilà, l'idée c'est de la prime, parce que Macron il aime bien que tu aies des primes, tu vois, parce que comme ça les gens, tu vois, ça les booste au travail. Ils aiment bien, tu vois, tu as des primes, on peut mettre des objectifs, c'est un truc vachement intéressant.
Oui, puis c'est une façon aussi de ne pas valider une augmentation de salaire, c'est-à-dire qu'on peut te l'enlever la prime, quoi.
Ah, mais c'est surtout qu'en fait, une prime, c'est pas de l'augmentation de salaire. Une prime, c'est une prime. C'est-à-dire, on te jette des miettes, c'est pas, tu l'auras pas toute ta vie intégrée dans ton salaire. Donc sous ce l'égide de ce truc-là qu'ils appellent le partage de la valeur, en gros, c'était, ils voulaient augmenter tout ce qui était intéressement, participation, ce genre de choses, les primes Macron, là, c'est la super prime défiscalisée, donc qui est géniale. C'est comme ça, les entreprises payent pas d'impôts dessus, puis ça
crée un manque à gagner pour la sécu.
C'est ça. Et donc, en gros, si tu veux, l'idée de ces primes, c'est quand même de se défaire en fait de l'idée de l'augmentation des salaires en disant aux salariés, on va vous fier des primes. Puisque c'est ça le nouveau nerf de la guerre pour les mecs du MEDEF, c'est de te dire, on le voit dans toutes les boîtes, hein, ils te balancent plus de primes que d'augmentation de salaire. Enfin, moi, dans la mienne, en tout cas, c'est comme ça. Et si tu veux, ça va quand même être signé par la CFDT, qui est un syndicat réformiste, rappelons-le, qui est plutôt pro-macroniste. Alors qu'en ce moment, ils sont quand même alignés sur le truc des retraites, où il y a une intersyndicale unie, ce qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. Et là, les mecs, ils te sortent comme ça, qui vont signer un accord. Alors, les autres OS, hein, bien sûr, le signent pas. La CGT, ils sont contre. FO, je sais pas trop leur positionnement. Mais voilà. Et on parle quand même d'un... Enfin, comment expliquer ce truc-là ? C'est un peu... C'est technique. Mais en gros, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est que t'aies plus d'augmentation de salaire et qu'à la place, t'aies que de la prime. Et les salariés, c'est eux, dans leur tête, ils seront contents parce qu'ils ont des sous, quoi. Tu vois.
On aura bientôt plus de fiches de paye, tu n'auras que des primes, tu vois.
Les fiches de paye, ils arrivent maintenant, c'est la numérisation des fiches de paye aussi, hein, comme ça. Si tu n'as pas accès à Internet, tu n'as pas ta fiche de paye, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Mais donc ça, tu vois, c'était le... En fait, ils ont sorti ça, le partage de la valeur, c'était à l'époque où Total, ils avaient fait un gros scandale suite aux dividendes qu'ils avaient versé l'année dernière et que les mecs s'étaient mis en grève, tu vois. Ça vient de là, en fait. Ça vient de ce mouvement-là où Macron s'est dit oh, « Putain, on va quand même... les super profits, on sait pas ce qu'on sait, mais on va quand même essayer de partager la valeur, quoi, tu vois. » Parce que la valeur, mais c'est quoi la valeur ? La valeur de l'action, la valeur de l'actionnariat, la valeur des dividendes. Parce qu'au final, ce qu'ils oublient de te dire, c'est que la valeur, c'est surtout le travail des travailleurs, en fait. C'est le mec qui fait le boulot qui fait la valeur. Tu vois, c'est pas l'actionnaire qui attend chez lui... qui se lève le matin, qui s'étire, qui va boire un café, puis qui a cligné des yeux et qui a consulté 3 fois ses mails, lui, il apporte pas de valeur dans ta boîte. C'est le travailleur qui bosse. Et donc voilà, donc ça va être... Donc là, on est quand même... c'est sorti là. On est en pleine réforme des retraites avec une intersyndicale, mais t'as quand même un syndicat réformiste qui dit qu'ils signeront cet accord du partage de la valeur. Mise en place dans le cadre de dialogue social et de tenter de canaliser la colère qui s'exprimait tout en cadrant la discussion sur les propositions du gouvernement, éludant ainsi la question de l'augmentation des salaires. Voilà, parce qu'en fait, en gros, dans le partage de la valeur, on ne parle pas de l'augmentation des salaires. On ne parle pas de l'égalité des salaires non plus entre les hommes et les femmes. On ne parle pas de l'emploi des seniors, puisque ça, c'est pareil, ça a été retoqué, tu vois, la réforme des retraites, leur index senior, ils ont pris un râteau.
Bah, parce qu'il était pourri aussi, il faut dire. Il n'y avait aucune, aucune garantie, voilà, quoi que ce soit, ni d'obligation envers le patronat. Donc,
Ce qui est marrant, tu vois, c'est que la gauche, elle a voté contre, parce qu'elle dit justement, il n'y a pas d'obligation envers le patronat. Et la droite, elle a voté contre, elle en disant, ben non, faut pas obliger le patronat. Et putain, j'étais là, la vache, on est bien.
En tout cas, le bilan de cette première lecture, quand même, je ne sais pas combien il y avait d'articles, hein, tout le monde espérait que ça arrive à l'article 7, tu parles, c'est arrivé en cours d'article. Le 3 et les deux premiers, il y en a un qui passe, un qui passe pas. Voilà, beau bilan de ces 2 semaines de débat. Ouais, de débat, de prise de tête à l'Assemblée nationale.
Maintenant, ça part au Sénat pour je sais pas trop quoi.
Dans la main de la droite.
Il y a eu un truc là aussi sur le comité de relecture du Sénat, tout ça.
Ah, j'ai pas vu passer ça.
Mais, ouais, je crois que c'est un comité de relecture paritaire, un truc du genre. Genre, c'est 14 personnes du Sénat, je crois, qui relisent et qui réécrivent, en fait.
C'est à la fin des discussions au Sénat, quoi, des 2 semaines qu'il y aura au Sénat, quoi. C'est pour essayer d'avoir, un accord
De toute façon, de ce que j'ai compris, le Sénat, comme de toute façon, c'est à droite, toutes, eux, ils vont plutôt mettre la retraite à 65 ans, puisque c'est un peu...
C'est possible qu'ils la remettent sur la table.
C'est un peu le leitmotiv de ce que j'ai compris, c'est l'âge de départ à 65 ans, hein, sachant que... Enfin, je vous encourage...
C'est ce qu'ils demandaient à une époque, en tout cas, à l'époque de Pécresse, quoi, ou même avant, peut-être.
Oui, oui, et puis de toute façon... Enfin,
bon, on rappelle quand même qu'avant la loi de 93 de Balladur, la retraite, c'était à 57,5 années. Hein. Voilà.
Ouais. Et là, on est actuellement 62.
30 ans après, on est à 62. On risque les 64, voire 65.
Alors, et en plus, voilà. En vrai, le calcul, c'est pas... Ce qu'il faut aussi dire aux gens, c'est que le calcul, c'est 62 si tu as fait une carrière complète.
Oui, voilà. Et avec un nombre d'annuités qui a augmenté, au passage.
C'est ça. Parce que quand tu fais ton calcul vite fait à Girard-Co, si tu as l'occasion d'aller le faire...
Je l'ai fait une fois.
Je suis à 67, tu vois.
67 euros
Ah non, pardon. 67 ans pour partir sans décote.
J'étais à 200 euros mensuels, c'est ce que j'allais regarder. Oh, putain.
Tu vois, c'est déjà, on est déjà loin.
Tu vois, on revient à partage des valeurs. N'oublions pas qui nous gouverne. Hein. Oui. On en parlait en début d'émission. De toute façon, dans ce gouvernement Macron, si t'as pas des casseroles au cul ou si t'es pas millionnaire, tu n'as pas ta place au ministère. Putain, je fais des rimes aujourd'hui. Et le dernier cas, quand même, après Dussopt là, et ses tableaux, n'oublions pas que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Privé, qui est attaquée actuellement parce qu'elle aurait oublié de déclarer 40 000 euros d'actions. Pour elle, c'est rien. Hein. Elle est millionnaire. Elle en possède 1,5 million d'actions, entre autres chez L'Oréal, Total, LVMH, Crédit Agricole, BNP Paribas, AXA, Kering, Hermès, trois petits points. Donc on voit très bien avec qui elle travaille. Voilà. Si vous n'avez pas compris où va partir le pognon, c'est toujours pas dans nos poches, en tout cas. Quoi. C'est...
Non, le partage de la valeur, c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais bon.
Nous, on appelait ça, voilà, déjà, ils ont renommé, ils ont parlé de partage de richesse et puis partage de valeur.
Mais oui, parce que richesse, c'est un gros mot. Si tu dis à un mec du CAC 40, on va partager ta richesse, le gars, attends, tu te rends compte, il a déjà 50 milliards, on va peut-être potentiellement lui enlever 1 million. Ouais. C'est fou, comment il va dormir le soir, que le pauvre coco. Ouais,
pas près de l'avoir la taxe sur les grands. Les grandes entreprises.
Non, tu n'auras pas de taxes. De toute façon, tant que Macron est là, je pense qu'on est mal barré.
Ah, une seule solution, hein, faut le dégager. Et puis, à s'assurer que derrière, ce ne soit pas le même genre de connard. Ça, c'est encore autre chose.
Alors, on se fait une petite pause muse et après un agenda, ou t'enchaînes agenda?
Ouais, moi, l'agenda, j'avoue que cette semaine...
il est light.
Il va être assez light, je pense. On fera un agenda piquet.
Ok.
Et puis, si quelqu'un a 2-3 trucs à y ajouter, on ajoutera ça, quoi. Mais on va faire un agenda rapide.
Ouais.
Hein, je pense que le plus important aujourd'hui dans cette midinale, c'est ce qui a été dit dans la première et la deuxième partie. Et puis nous, on va suivre ça de plus en plus proche. Non, c'est vrai, on est dedans, quoi. Bah, on va continuer de vous informer sur ce qui se passe à Brest, en tout cas. Et...
Ouais, moi, je me disais que ce serait même intéressant de faire des plateaux radio après, à partir du 7 mars, quand on sera vraiment dans une lutte un peu plus rude, d'aller s'installer dans des AG ou d'aller s'installer dans les manifs.
Je ne sais pas ce que ça va donner, une radio dans une AG, mais ça risque d'être le boxon.
Oh, bon, après.
Mais les plateaux radio, ici, c'est ouvert, on le rappelle, hein, les studios de Piquet sont ouverts de midi à 14h pour prendre la parole tous les lundis. C'est au 7 rue Watteau, dans le quartier de Pont-à-Nézène. Donc, même si vous n'avez pas eu le temps de nous contacter, n'hésitez pas à venir témoigner, à venir parler de vos luttes, de vos prises de tête, enfin tout ce qui vous fait envie de vous faire vous exprimer. Petite pause.
Yes.
Parce que je vois que Kevin nous laisse, là, il doit retourner au turbin.
Oh, putain.
Retourne te faire exploiter.
C'est cool, c'est les vacances.
Ouais. C'est tout le monde. Bon, tu nous passes quoi aujourd'hui?
Là, on va se passer Das Kapital, des Vulves Assassines. Ah. Et quoi de neuf, les voyous, avec du voice coder, parce que je sais que les auditeurs de Piquet, ils adorent le voice coder.
Ah, vous faire saigner les oreilles.
Ouais, c'est ça. Alors, attends, hop, faut juste que je remette un peu de son. Et on s'écoute Das Kapital et quoi de neuf, les voyous. À tout à l'heure.
Le communisme n'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État existant.
Das Kapital! Das Kapital! Das Kapital! Das Kapital! Das Kapital! Das Kapital! Das Kapital!
Et mes doudous, j'en ai foutu partout. Leurs couplets ont des coups de mouche, roule un doubi devant la patrouille. Rock du duc de l'amour, de la drogue dure et des cagoules. Ça cavale, cavale comme d'hab à Panam, je taille en vite à Toulouse. Toujours la même, on tombe les masses, mais ils en ont masse à la pêche. J'ai qu'à la page, carré la scène, je me taille en secret, carré la star. Ils sont tous à la télé, donc y'a plus de cauchemar dans le placard. Le gang est TDS et PD, t'étonne pas qu'on fasse ban la barre. Je cours en dehors, pourquoi je sais pas, je sais fuck, je souffre de l'effroi de la foule.